fille dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des
L'abécédaire. Chronique du 9e art sous forme d'abécédaire. C comme les cités obscures. Aujourd'hui, je vous propose de plonger avec moi dans l'univers merveilleux des Cités Obscures, une série de bandes dessinées créées par François Skuyten et Benoît Peters, qui compte à ce jour une douzaine d'albums et à peu près autant de publications hors série qui viennent enrichir la cohérence littéraire, graphique et thématique de cette œuvre fascinante. Tout commence en 1983 avec la publication d'un premier album, Les Murailles de Samaris, qui raconte l'histoire d'un jeune officier de la ville de Xystos, envoyé en mission dans la ville de Samaris afin d'élucider des cas de disparition inquiétante. À travers l'exploration de ces deux premières cités et l'aventure de Franz, le personnage principal, Peters et Skuyten posent les bases d'un univers étrange, à la fois proche du nôtre mais très différent par bien des aspects. Si nous sommes apparemment sur une autre planète, le monde des cités obscures est malgré tout peuplé d'hommes et de femmes semblables aux terriens. En fait, il s'agirait plutôt de deux mondes parallèles, deux mondes jumeaux, qui se seraient progressivement différenciés à partir d'une origine commune. Dans les deux albums suivants, La Fièvre d'Urbicande et La Tour, sortis en 85 et 87, les deux auteurs nous invitent à explorer un peu plus ce continent, soumis à des lois physiques assez particulières. À Urbicande, un étrange objet cubique grandit de façon exponentielle en traversant la matière, jusqu'à englober la ville entière dans le réseau de ses arêtes, ce qui pose de graves problèmes à l'urbatecte Eugène Robic, un fervent défenseur de la symétrie et de l'harmonie de sa ville. Dans La Tour, le personnage principal explore une gigantesque cité construite à la façon d'une tour de Babel, dont l'intérieur est en noir et blanc et l'extérieur en couleur. Quant aux albums suivants, nous aurons également l'occasion de découvrir un homme dont l'ombre est colorée, ainsi qu'une jeune fille soumise à un centre de gravité décalé de 30 degrés par rapport au reste de la population. Avec La Route d'Armilia, publiée en 1988, les auteurs expérimentent de nouveaux procédés de narration. Dans la majeure partie de l'album, ils abandonnent le découpage en cases au profit d'un journal de voyage illustré. Au cours du périple des personnages à bord d'un zeppelin, nous survolons plusieurs cités majeures, Bayreuth, Copenhague, Calvani, Genova ou encore Bruxelles, qui sera au centre de plusieurs récits futurs. Une première tentative de cartographie des cités obscures se dessine. La série se construit véritablement autour de cet ensemble de cités plutôt qu'autour de personnages récurrents, même si certains apparaissent dans plusieurs récits. L'architecture, la cartographie, l'urbanisme, l'organisation administrative et sociale des cités ainsi que leur mythologie sont les ingrédients principaux de cette œuvre monumentale qui convoque aussi bien Jules Verne et ses récits d'aventure que les architectes piranèses Joseph Poulart et Victor Horta, ou encore le photographe Karl Blossfeld. Benoît Peters élabore ses scénarios à la façon des auteurs de science-fiction d'anticipation. Chaque album est l'occasion d'effleurer un thème sociétal ou philosophique contemporain à travers le prisme des cités obscures. Disparités économiques et technologiques, problèmes de séparation des mythes et de l'histoire, questions environnementales et urbanistiques, échecs des utopies, etc. Les personnages sont constamment confrontés à l'obscurantisme, à l'intolérance et au conflit.
Bien avant que l'an 2000 ne soit là, on était déjà dans le deuil de l'utopie. Il y a là eu un décalage très très étonnant parce qu'au fond, la grande machine à rêve sur l'urbain et sur la modernité et sur les nouveaux matériaux, ça va des années 50 à la fin des années 70. Et quand le moment de la modernité arrive, évidemment, il n'y a plus du tout cette dimension de rêve. Et si on prend le travail des cités obscures que j'ai développé avec François Skuyten, on peut dire que la base des cités obscures, c'est la critique de l'utopie. C'est une série qui n'est plus du tout dans la construction des lendemains qui chantent, mais qui reprend les signes de la modernité tels qu'ils avaient été rêvés au début du siècle et qui montre leur lendemain. On est dans le désenchantement. La ville façade dans les murailles de Samaris, la ville monumentale d'Urbicande menacée par un phénomène qui arrive de nulle part et que l'urbaniste ne peut pas contrôler, la ville en travaux de Bruxelles où les dirigeants et les architectes sont totalement dépassés par les événements. Je pense que nous étions des enregistreurs de signes, comme Druillet ou Mézières étaient, ou Moebius étaient des enregistreurs de signes à leur époque. C'est pas un hasard si on est dans les années, par exemple, de la fin du monde communiste, de la fin du monde, de cet espoir d'un autre mode de vie au moment où les cités obscures se développent.
De son côté, François Skeuten laisse libre cours à son immense talent graphique pour donner forme à ce monde et à ces cités toutes plus magnifiques les unes que les autres. Puisant son inspiration dans différents courants artistiques et architecturaux, de l'Antiquité à l'Art Nouveau, son dessin invite au voyage. Mais loin de copier machinalement des esthétiques ou des styles existants, il les sublime. Chaque case est une petite fenêtre ouverte sur ce monde, un petit tableau dont il est parfois difficile de décoller le regard. Et si son trait est reconnaissable au premier coup d'œil, l'artiste n'a de cesse de se renouveler tout au long de la série. Il alterne le noir et blanc et la couleur, parfois au sein d'un même album. Dans La Route d'Armilia, il signe de pleines pages sans phylactères, comme autant de cartes postales des paysages traversés. Dans La Théorie du grain de sable, il s'essaie avec bonheur au format à l'italienne avec ses planches horizontales. Il utilise d'ailleurs dans cet album une palette de noirs, de bistres et de blancs lumineux pour souligner avec astuce l'apparition de nouveaux phénomènes inexpliqués au sein des cités obscures. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur cette série, la preuve, un guide touristique des cités de 200 pages a d'ailleurs été publié chez Casterman. Quant aux deux auteurs, leurs parcours respectifs méritent eux aussi que l'on s'y intéresse. Saviez-vous par exemple que c'est François Skeuten qui a conçu la station de métro parisien Arts et Métiers, avec ses parois en cuivre, ses hublots et ses engrenages? Probablement l'un des passages qui relie notre monde à celui des cités obscures.
Chabam!